4 ans, je l'ai toujours beaucoup plus aimé que je ne t'aime. C'est peut-être moi qui aurais dû avoir une liaison.
Calomnie et trahison ce soir dans le rendez-vous, c'est pas beau. Hein. En direct sur France Culture, il sera question de Séville, de Belcanto, d'adultère, de mouette et même de Pénélope.
Pénélope Cruz.
Avec Karine Deshayes que l'on retrouve dans Le Barbier de Séville, l'opéra de Rossini, un répertoire qui rythme son parcours de mezzo-soprane, Lucille Comeau.
Portrait d'une chanteuse férue de théâtre qui a trouvé dans Rossini à la fois des rôles à la mesure de sa voix et une vaste aire de jeu.
19h30, la chronique de cinéma de Jean-Marc Lalanne qui met ce soir à son programme quoi ?
La rétrospective Guy Gilles à la Cinémathèque française.
Parfait. Française. J'adore comme vous le prononcez.
Française.
Ouais. 19h35, plateau théâtre avec Frédéric Bélier-Garcia qui met en scène Trahison d'Harold Pinter et La Mouette prochainement d'Anton Tchekhov. Deux réflexions sur un art théâtral capable de remonter le temps. Il y a un jeu de mots, on l'expliquera. Manou Farine.
Retour donc sur deux mises en scène. La Mouette, où tout est déjà trop tard, et Trahison, où tout est déjà arrivé.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle. Le nouveau journal de la culture de Zoé Sez. Je parle un peu vite, je vais ralentir le temps parce que je bafouille.
Ladies and gentlemen, please join me in welcoming to this stage Emma Watson.
The more I've spoken about feminism, the more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating.
C'est votre son du jour, Zoé Sez. Bonsoir.
Oui, Laurent, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, la voix que vous entendiez, c'est celle d'Emma Watson, la jeune actrice qui était au début de la semaine à l'ONU pour défendre la condition des femmes. Alors, elle a fait un discours très courageux, salué par ses pairs, mais qui, semble-t-il, n'a pas plu à tout le monde. Dès le lendemain, un site avait vu le jour intitulé « Emma, you are next », qui veut dire « Emma, tu es la suivante », qui menaçait de dévoiler des photos d'Emma Watson toute nue pour la punir de son discours féministe. Site vraisemblablement monté par les hackers de 4chan, un site qui a récemment publié des centaines de photos de stars nues. Alors la toile s'est indignée devant de telles menaces. Et on apprend aujourd'hui qu'en réalité, c'était des fausses menaces, c'était un coup marketing. C'est une agence de communication qui a admis ce mercredi qu'elle a été en fait contactée par des célébrités pour monter ce coup et pour attirer l'attention des médias sur l'effet dévastateur de ces hackers et pour faire interdire ce site 4chan.
La célèbre librairie de la...
De la main.
C'est pas de la mare, c'est de la main.
C'est de la main,
c'est
comme
ça,
une
à
main.
À Paris, oui, menacée de fermeture. C'est votre dossier du jour, Zoé Sez.
Et oui, parce que les murs de la librairie appartiennent depuis quelques années maintenant au fonds qatari Constellation Hotel Holdings, qui les a rachetés en même temps que tout un bâtiment dont fait notamment partie l'hôtel du Louvre. Et alors maintenant que la librairie doit renouveler son bail, comme c'est le cas régulièrement, le fonds qatari lui demande un loyer qu'elle n'est pas en mesure de payer. Selon les proches du dossier, ce serait le double de ce qu'elle payait actuellement, c'est-à-dire plus de 100 000 euros pour une surface de 90 mètres carrés, alors que son chiffre d'affaires est seulement d'1,5 million. Alors depuis que la situation a été rendue publique, plusieurs grandes personnalités comme Denis Podalydès, l'académicien...
On a un problème avec
on
les
On a un problème propres. Aujourd'hui.
Je crois qu'on va donner le nom de personne, c'est fini.
Si, y avait
les
aussi
gens
n'ont
qu'à se souvenir de nos invités.
Il y avait aussi l'académicien Angelo Rinaldi et même la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, qui est venue en personne pour manifester son soutien, car en fait, cette librairie de la main, c'est tout un symbole. Écoutez Vincent Monadet, le président du Centre National du Livre.
La librairie de la main, c'est la plus vieille librairie en Paris. Elle est depuis le XVIIIe siècle commerce de librairie. Elle était d'abord à la Comédie Française, puis après l'incendie, elle a déménagé juste en face de la Comédie Française en 1910. Ce fut la librairie que possédait Jacques Chardonne. Aujourd'hui, elle a une grosse clientèle de quartier, puisque un certain nombre d'enseignes ont fermé autour, notamment le Virgin qu'il y avait au Carrousel du Louvre ou la librairie d'El Duca. D'autant que dans ce quartier coexistent la Comédie Française, le Conseil d'État, le ministère de la Culture et les gens qui travaillent encore au Louvre des Antiquaires.
Face à la mobilisation, le fonds Qatari a émis un communiqué rassurant et a entamé des négociations avec les représentants du libraire pour trouver une solution. Mais la question c'est, quel est le projet du Qatar pour ce bâtiment?
Oui, parce qu'on le sait, l'Émirat ne cesse d'investir à Paris récemment, notamment le printemps qu'il veut transformer en grand centre de luxe. Alors, est-ce que ce projet, en imposant un loyer aussi haut à la librairie de la main, ce ne serait pas tout simplement de le faire fuir et d'ouvrir à la place un grand magasin de luxe? Vanessa Ratigner est co-auteur avec Pierre Péan du livre « Qatar, la France sous influence ». Pour elle, le fonds a au contraire plutôt intérêt à se montrer conciliant dans cette affaire. Écoutez-la.
Effectivement, les Qataris investissent parce qu'ils veulent avoir un retour sur investissement
finalement, comme tout investisseur qui va faire un investissement lambda finalement. Mais les Qataris déplorent l'image qu'a leur pays en France. Donc il est vrai que l'ambition du Qatar par rapport à ses différents investissements se retrouve ici finalement à l'épreuve du réel en fait. La meilleure des idées justement pour, de leur parcours dégoupiller tous les soupçons qui peuvent se porter sur leurs investissements serait de parvenir à trouver une solution qui permette à la librairie de se maintenir dans les murs.
Alors au-delà de ce cas emblématique, la pression immobilière reste une grande menace pour les librairies en France.
Oui, le problème se pose très régulièrement et malheureusement il se règle trop souvent au cas par cas, un peu à la débrouille, comme le regrette Vincent Monadet.
Un problème qui se passe partout en France, dès lors que vous êtes dans un centre-ville dynamique, l'immobilier augmente de façon régulière et les négociations de bail sont toujours des problèmes pour les libraires qui ne sont pas propriétaires de leurs murs. Je prends l'exemple de Bordeaux ou de Toulouse ou même de Lille, des croissances de loyers année après année qui impactent durablement un commerce comme la librairie. Nous aidons par exemple au Centre National du Livre au déménagement de certaines librairies. Quand il n'y a pas d'accord qui sont passés avec le bailleur, on essaye d'aller dans des quartiers moins chers. Par ailleurs, la ville de Paris par exemple a une société d'économie mixte qui achète des baux commerciaux et les réserve en priorité au commerce de proximité, donc aux librairies aussi. Donc les actions sont individuelles. Moi, si je devais plaider pour quelque chose, ce serait pour un texte qui encadre les loyers des commerces de proximité, ce qui permettrait aux libraires de se maintenir en centre-ville.
Voilà, les négociations en tout cas continuent dans le cas de la librairie de la main. Et quelle qu'en soit l'issue, bien sûr, on vous en reparlera dans le journal de la culture.
Peut-être une réaction de votre part, Frédéric Bellier-Garcia, sur cette librairie que j'imagine vous connaissez.
Oui, bon, on la connaît parce qu'on y traîne avant d'aller aux Français, plutôt que pour éviter les débits de boissons. Donc oui, c'est une belle librairie, dans lequel justement on peut errer et trouver des choses. Et c'est vrai que c'est très triste que dans ce quartier déjà très 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 policé, quoi, par les institutions culturelles qui sont dans leurs murs, que ce point de rendez-vous disparaisse.
On continue avec les brèves.
Et l'on ouvre avec l'énorme succès du zoo de Vincennes. Il a rouvert en avril dernier après 6 ans de travaux et à peine 5 mois après, il a déjà accueilli 1 million de visiteurs. C'est un record absolu.
La décision judiciaire qui va décider du sort de la salle Pleyel, encore repoussée.
Oui, la salle Pleyel qui est propriété de la Cité de la Musique et qui doit changer d'activité, vous le savez sans doute. Plusieurs exploitants sont déjà sur les rangs pour reprendre l'exploitation de la salle. Mais l'appel d'offres est au point mort car l'une des anciennes propriétaires de la salle Pleyel, Carla Maria Tarditi, conteste les conditions dans lesquelles la Cité de la Musique a acquis la salle et aussi le projet qu'elle a pour elle. Décision attendue normalement la semaine prochaine.
Repoussé aussi, c'est le verdict dans l'affaire Dieudonné au Théâtre de la Main d'Or.
Le tribunal de grande instance de Paris devait décider hier soir si le polémiste était expulsé ou non du Théâtre de la Main d'Or, comme le souhaitent les propriétaires du théâtre. Mais les juges ont décidé de sursoir à leur décision. Dieudonné qui a vraisemblablement s'attend à une décision défavorable et qui a déjà demandé à ses adeptes sur les réseaux sociaux de lui signaler tout lieu prêt à l'accueillir.
Et la dernière ?
Alors, c'est l'histoire du tour de plus en plus morbide que prend la carrière de Lana Del Rey. Vous savez, cette chanteuse, cette artiste un peu secrète qui entretient une relation d'amour-haine avec les médias. On ne connaît pas vraiment son nom, elle apparaît le moins possible. Elle avait annoncé qu'elle se retirait de la vie publique alors qu'elle avait à peine 25 ans, puis finalement elle est revenue. Et lors de la tournée qu'elle a commencée pour défendre son deuxième album, elle a carrément disparu de scène. Programmée 2 fois au Trianon la semaine dernière à Paris, elle a décommandé les 2 fois à peine à 1 heure de la prestation, ce qui lui a valu de se fâcher à mort avec Virgin, qui organisait les 2 concerts. Puis elle a annulé toutes ses dates européennes pour raisons de santé. Grande inquiétude de ses fans. Mais voilà qu'elle nous rassure, Lana. Elle annonce 2 concerts pour le mois d'octobre. Et pour ne rien gâcher à son aura de revenante un peu étrange, son grand retour, elle le fait dans un cimetière. Et oui, le célèbre Hollywood Forever, là où sont enterrées les plus grandes stars hollywoodiennes. Alors c'est un cimetière qui a déjà accueilli des spectacles, mais en général, c'est toujours des spectacles d'hommage à des artistes morts qui y sont enterrés. Elle sera donc la première star vivante à y défendre son propre album de son vivant. Il faut bien un début à tout.
Des réactions à ce que l'on vient d'entendre, Karine Day ?
Par rapport
à
la personne qui annule au dernier moment les concerts, nous, ce serait très mal vu, ça c'est sûr.
Ça vous est jamais arrivé ?
D'annuler comme ça au dernier moment. Alors après,
pour des raisons de santé, voilà, ah
bah
vous
oui,
êtes remplacé.
Après, c'est une raison de santé. Puis d'ailleurs, on nous demande un certificat de toute façon. Quoi. Mais là, effectivement, on sent que c'est un jeu. Quoi. Et puis, ça l'a fait connaître de plus en plus. Pourquoi pas?
La salle Pleyel, vous suivez ce dossier?
Bah, la salle Pleyel, oui, parce que c'est une salle dans laquelle j'ai chanté de temps en temps, que j'apprécie beaucoup. Et c'est vrai que le projet d'en faire une salle où il n'y aurait plus du tout de musique classique, moi, me peine, parce que je trouve que c'est un lieu qui, justement, est fait aussi pour la musique classique. Donc, si c'est pour accueillir d'autres styles de musique, moi, je dis pas de souci, ouvrons les portes. Mais ce serait triste, voilà, qu'il y ait une clause qui interdise la musique classique dans cette salle, sachant qu'il y a eu en plus des travaux qui ont été refaits il y a quelques années aussi pour améliorer l'acoustique. Donc, moi, je trouve ça un peu triste. Voilà.
Le rendez-vous, Laurent Goumard.
Plateau Bel Canto avec vous, Karine Des, mezzo-soprane, victoire de la musique 2011. Vous chantez actuellement le rôle de Rosine dans Le Barbier Séville de Rossini. C'est à l'Opéra Bastille à Paris, dans une mise en scène de Damiano Michieletto. Difficile aujourd'hui.
Michieletto,
c'est très difficile, je ne comprends pas ce qui se passe. Rapide description du plateau, un immeuble entier d'un quartier populaire de Séville, époque contemporaine, avec un petit côté Movida, notamment par exemple dans la façon dont vous êtes vêtue, une sorte de costume de petite punkette à un moment donné. L'immeuble pivote pour laisser apparaître l'appartement de Bartolo sur deux étages. Bartolo, c'est le vieux barbon qui souhaite épouser sa pupille, Rosina, c'est-à-dire vous. Mais vous êtes amoureuse du comte Basilio qui vous fait une cour assidue avec l'aide de Figaro, le barbier spécialiste des liaisons dangereuses. On vous écoute, c'est au début de l'acte 2. Ici, au début de l'acte 2, le comte arrive habillé en maître de musique pour tromper l'attention de Bartolo et il donne une fausse leçon à Rosina qui en profite pour déclarer sa femme. Traditionnellement, chaque cantatrice est libre de remplacer le morceau de la leçon par un air de son choix. Est-ce que vous avez songé à honorer cette tradition, Karine Des ?
Pas forcément, parce qu'effectivement, l'air qui a été écrit par Rossini, pour le coup, me convient bien au niveau de la tessiture vocale. En général, c'est plutôt des sopranos qui changent l'air, parce qu'il y a des notes qui sont un peu graves par rapport à leur tessiture. Et par contre, là, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette mise en scène, c'est qu'effectivement, d'habitude, pareil, Rosine prend sa leçon de musique sagement, et c'est le comte qui fait semblant de jouer du clavecin et de l'accompagner. Et là, pour la première fois, c'est Rosine qui saisit un instrument de musique, là, en l'occurrence, c'est un violoncelle, et qui, tout en chantant, s'exécute au violoncelle. Et ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment excellent, parce que, pour une fois, on n'est pas passive. Et en plus, de découvrir l'instrument et que le comte vienne justement montrer les doigtés, le coup d'archer. Pour moi, j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant à jouer, en tout cas.
Lucille Comeau.
La partition de Rossini, elle a évolué depuis sa première création, notamment les airs de Rosina, vers une tessiture plus aiguë. Je pense à la cavatine qui a été transposée du mi au fa majeur. Comment est-ce que vous êtes confrontée à ça, et ces évolutions-là vers l'aigu ?
Alors, pour le coup, par rapport à la cavatine, moi, je la fais toujours en mi, parce que les mezzo-sopranos, on reste en mi. Et quand on choisit de distribuer une soprano dans le rôle de Rosine, effectivement, elle passe en fa. Et c'est là aussi, en général, où il y a des inversions dans les parties des deux chanteuses, parce qu'il y a le rôle de Rosine et le rôle de Bertha. Quand Rosine est soprane, Bertha prend la ligne du dessous. Et quand Rosine est mezzo, Bertha prend la ligne du dessus. Ça, ce sont vraiment des choses habituel par rapport à la partition. Mais effectivement, après, Rossini, on le remercie grâce à ça, c'est qu'on a le droit voilà, de faire les coloratures qui nous conviennent et qui nous correspondent vraiment vocalement.
Vous avez beaucoup chanté et joué Rossini, Elena dans La Dame du Lac, Isolière dans Le Comte d'Ory, votre rôle fétiche, la Cenerentola, plusieurs fois Rosina dans Le Barbier de Séville. En quoi Rossini vous convient techniquement et même d'un point de vue personnel, qu'est-ce qu'il vous permet de dire, Karine Day?
Effectivement, quand on lit une partition pour la première fois, c'est aussi le cas pour des instrumentistes, on se rend compte si ça rentre tout de suite voilà, dans nos cordes. Les instrumentistes vont dire, voilà, ils l'ont vraiment sous les doigts. Ben, nous, on l'a vraiment dans la voix. Rossini, parce qu'il y a des vocalises, et moi j'adore vocaliser, c'est vraiment une écriture qui me plaît, et l'écriture belcantiste également. Et puis par rapport à la tessiture qui est demandée par rapport à ces rôles-là, il y a d'autres rôles rossiniens que l'on m'a déjà demandé, je pense à l'italienne, dans l'italienne Alger, mais là c'est un tout petit peu plus grave, donc là pour le coup ça ne me correspond pas, mais les quatre rôles que vous avez cités pour le coup me correspondent vraiment, donc merci Rossini.
Manu Farine.
Frédéric Bellé-Garcia, vous aussi, vous avez... Vous avez monté plusieurs fois du Rossini à plusieurs reprises, dont un Barbier.
Exactement.
Avec Karine Day.
Avec grand plaisir, ouais, ouais.
Pourquoi y retourner également, vous? C'est la dimension théâtrale de Rossini, peut-être, qui vous intéresse plus?
Oui, oui, j'aime beaucoup. Oui, une sorte de chez Rossini, une sorte d'ivresse, et musicale, et lyrique, vocale, et même qu'il arrive à imposer à ses livrets. Qui fait qu'il y a une sorte de, à travers ça, on l'appelait le monsieur crescendo, à travers ces prouesses continuelles qu'il demande, et à l'orchestre et aux chanteurs et à la mise en scène pour essayer de suivre le rythme de l'intrigue, il y a quelque chose, une sorte de sens de la vie, d'essence, de l'ivresse de la vie, de ce que la joie peut être, que je trouve il saisit très, très justement, quoi. Et essayer de faire la mise en scène de ça, d'attraper ça, un peu que tout le monde, comme ces tourniquets dans les jardins publics, que tous les chanteurs, la mise en scène, que tout le monde pousse à se tourniquer pour s'enivrer. C'est à la fois ça relève de l'exercice, donc c'est un peu contrariant pour les metteurs en scène parce que la liberté est très contrainte, mais à la fois c'est très quand on a des partenaires comme Karine, c'est très, très joyeux. Quoi, et très.
Quelle vision vous aviez justement de la Rosina telle qu'elle devait être chantée et jouée sous votre direction, Frédéric Bellé-Garcia?
Rosine, c'était... moi, en plus, en tant que metteur en scène, je ne sais pas si c'est parce que je viens du théâtre, je m'inspire un peu toujours de la personne, ce que parfois je découvre à la musicale, donc son humanité pour fabriquer le rôle.
Et donc là
non, il y a un côté... elle a un côté garce...
Oui, continuez.
Ça, oui. Non, un côté garce, parce que c'est la pupille que dont tout le monde pense jouer et qui en fait se joue de tout le monde. Donc elle vient d'un peu le noyau de la rotation, tout en gardant une sorte d'humanité. Enfin, on avait regardé ça, une humanité un peu blessée, à la fois touchée, même par Bartolo. Même par Bartolo, allant vers le comte en étant entre les deux, et Karine arrivait à avoir et la virtuosité comique qui tend vers la garce, la garcitude, je sais pas comment il faut dire ça, et d'autre part une humanité un peu qui, plus ça tourne, plus ses affects se perdent un peu, et sa tête elle-même tourne entre ces hommes qui la veulent ou la désirent.
Karine, vous vous souvenez de la direction d'acteur de Frédéric Bellé Garcia, une chose précise par exemple?
Une chose précise, alors une chose précise, pas forcément, parce que forcément le temps fait que là ça remonte un peu, mais effectivement c'est juste quand Frédéric dit que même s'il a sa vision voilà, de la mise en scène, il s'adapte effectivement au chanteur qu'il a, c'est-à-dire que même si c'est une reprise, on a eu la chance justement d'avoir un vrai échange, et que par exemple, pareil, nous si on veut proposer quelque chose, voilà, il observe et nous dit ça marche, ça marche pas. Et ça a été un vrai échange. Et effectivement, le côté malicieux du personnage m'a beaucoup intéressée.
Lucille.
Alors là, à Bastille, pour la mise en scène, le metteur en scène Damiano Micheletto s'est beaucoup inspiré de l'Espagne populaire et des films de Pedro Almodovar, notamment. Dans le livret, il y a ses maquettes de travail. Et pour les personnages féminins, des photos de Penélope Cruz. Comment est-ce que vous vous êtes approprié, vous, ces références, Karine Day?
Alors, ces références, forcément, c'est donc une transcription, parce que là, évidemment, on est beaucoup plus loin que l'époque de Beaumarchais. Mais après, effectivement, on y rentre avec, pareil, le fait que l'on soit guidé par le metteur en scène. Il a également un petit peu changé, d'ailleurs, les idées de départ, parce qu'effectivement, au départ, dans ma chambre, j'avais un poster d'Antonio Banderas. Et il s'est dit que finalement, j'allais peut-être plutôt aller vers un côté gothique, manga. Donc après, on a changé, on a mis un poster de Johnny Depp.
Enfin, exactement.
Voilà, je me suis vraiment approprié ma chambre, en fait. Voilà, on l'a
Johnny
un peu
Depp, c'est votre idée?
C'est pas mon idée, mais effectivement, ça allait par rapport à ce qu'il voulait après faire du personnage. Là, il a voulu faire une Rosine plus rebelle que ce qu'il avait déjà fait auparavant. Et par exemple, voilà, j'ai un sweat à capuche et il m'a dit, mais tu mets ta capuche quand tu veux, tu enlèves quand tu veux. Enfin, il y a des choses aussi à proposer par rapport à ça, par rapport aux choses que l'on peut aussi attraper dans la chambre. Il y a plein de choses, des ustensiles. Enfin voilà, quand tu vas dans la salle de bain, je te laisse aussi, voilà, libre cours. Tu choisis des choses, tu te déguises. Donc en fait, là, ça a été plus proche d'un personnage, oui, vraiment une adolescente rebelle, effectivement un peu punkette, un peu manga, un peu grunge.
Dans sa note d'intention, le metteur en scène dit avoir voulu faire jouer les chanteurs, les sortir de leur carapace musicale. Vous aviez une carapace musicale, Karen Day ?
Je ne crois pas avoir une carapace musicale, mais effectivement, notre instrument étant notre corps, c'est aussi une contrainte, ça c'est une évidence. Si on veut aussi chanter parfaitement, c'est vrai qu'on ne peut pas toujours chanter la tête en bas et courir voilà, sans arrêt pendant 2h30. Mais effectivement, là, ce qui a été très nouveau, c'est que, je l'ai dit, pour moi, c'est vraiment une mise en scène très sportive. Et mes collègues l'ont dit également, on n'a jamais autant couru dans un décor.
C'est-à-dire couru, monter et descendre des escaliers, parce que c'est un duplex.
Voilà, et puis comme en plus le décor tourne, et qu'on doit toujours avoir un contact avec le chef, c'est quand même mieux. Donc nous aussi, on tourne pour toujours voir le chef et être devant. Enfin, c'est vrai que ça donne un peu aussi le tournis.
Et pour la voix, comment vous avez pu gérer cela ?
Ben justement, on essaye d'être le plus face possible. Là, on se rend compte aussi de l'utilité des moniteurs qu'on a justement sur les côtés, parce qu'on n'a pas toujours justement un contact direct avec le chef. En plus, on est au premier étage, donc quelquefois, comme on n'est pas devant, on ne voit pas non plus le chef. Donc il a fallu justement pendant un mois gérer tout ça, gérer le souffle aussi, parce que quand on court, ben, le souffle monte, alors qu'au contraire, on doit faire attention quand on chante. Que dire que quand on est dans le décor, une fois qu'on est rentré, on ne peut plus en sortir. Ça, les gens ne s'en rendent pas compte, mais voilà.
Donc, c'est comme des hamsters pris
voilà,
dans leur...
Voilà, 1h30, voilà, où on fait la roulette, là, vous imaginez. Et puis 1h, donc pareil, là, tout le monde a géré ou planqué des bouteilles d'eau pour pas que ça se voit, mais on a soif pendant 1h30 avec les costumes, les lumières, et puis le fait de courir et de chanter. Donc en fait, pendant un mois, voilà, il a fallu s'approprier, oui, c'est cette mise en scène, et puis que ça paraisse naturel, alors qu'au départ, évidemment, ça n'est pas vraiment naturel. On ne court pas dans tous les sens quand on chante, on ne presse pas un jus d'orange, un vrai. Enfin, on fait vraiment des actions vraies, là. Et ça a vraiment été un vrai travail.
Ça apporte quelque chose véritablement presque de naturaliste au jeu, mais un naturalisme du côté du comique. Lucille Comeau.
Alors, vous avez joué sous la direction de grands metteurs en scène, Laurent Pelly pour Jules César, le cinéaste Benoît Jacquot pour Werther et Giorgio Strehler, notamment pour Les Noces de Figaro. Qu'est-ce que Strehler, en particulier, vous aura appris ?
Alors là, évidemment, on n'a pas eu la chance d'être dirigé par lui-même. C'était forcément son assistant qui a repris la scène. Voilà, puisqu'il n'est plus de ce monde. Mais moi, j'ai adoré faire cette production. Parce qu'alors là, évidemment, on est loin des mises en scène de Laurent Pelly, d'Olivier Py ou de Damiano Micheletto. Ou même de Frédéric.
Oui, c'est ça.
Parce que là, forcément, on est tous en habit d'époque, avec des décors aussi qui ont été respectés dans ce sens, avec des lumières latérales. Enfin, il y a tout un jeu de lumières, de tableaux. Et on est en plus en costume d'époque. Donc, c'est un travail, on va dire, ancien. Mais moi, qui me plaît également, en fait. Je pense aussi, par exemple, à la Cenerentola de Ponelle, que j'ai la chance aussi de reprendre. Et j'aime bien, justement, passer de l'une à l'autre, faire des productions dites. Maintenant on les appelle des vieilles productions, mais j'allais dire il y a aussi des vieux ballets et les gens vont voir avec un grand bonheur des ballets qui ont été justement faits par Nourieff, et Nourieff n'est plus de ce monde. Donc moi je suis et pour les créations et pour les anciennes qui nous ont marqués, qui nous ont plu.
Cette question encore du jeu à l'opéra, est-ce qu'il y aura eu une rencontre qui aura été déterminante pour vous, qui vous aura libéré du point de vue du jeu, Karen Day?
Alors, pas une rencontre particulière, mais effectivement, le fait de travailler avec des gens qui viennent du théâtre ou du cinéma.
Du cinéma, oui.
Ça, c'est juste énorme pour nous parce qu'effectivement, quand on est au conservatoire, on a une option théâtre. Et je dis bien, c'est une option, en fait. On n'est pas obligé de prendre les cours. Donc, c'est vraiment si on a envie. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir Georges Verlaire pendant 2 ans comme professeur. Et après, quand on est en scène, on est un peu livré à nous-mêmes. Et effectivement, en plus, il y a la contrainte de notre instrument. C'est vrai qu'on aimerait chanter dans toutes les positions. On ne peut pas, hein, toujours, parce qu'il y a quand même une position à respecter pour le souffle. Et effectivement, de travailler avec, avec ces personnes-là, ils ont un regard extérieur sur nous. Nous, on ne peut pas toujours travailler devant la glace pour voir voilà, si l'effet convient ou pas. Quand on chante, on peut peut-être aussi déformer les expressions. Donc, en fait, c'est l'addition en fait, de toutes les personnalités que j'ai pu rencontrer en 17 ans maintenant. Et qui fait qu'effectivement, on se nourrit et qui fait que même si on reprend un personnage, il y aura des choses différentes, on amènera des choses différentes.
Voilà. Alors, je sais que vous allez souvent au théâtre. Je me demandais s'il y avait eu des acteurs qui vous avaient plus particulièrement marqué que d'autres, dont vous aimez particulièrement le jeu, Karine Day.
Alors, moi, évidemment, j'ai adoré voir en scène Michel Bouquet, par exemple. Et je me disais, mais comment c'est possible que cette voix passe aussi bien dans une salle sans jamais forcer ? Enfin, moi, je me rappellerai toujours de ça. Et en plus, je l'avais vu dans la pièce de Minetti, de Thomas Bernhardt.
Thomas Bernhardt.
Et j'ai trouvé un exploit. Enfin, il est seul en scène, je veux dire. C'est quand même incroyable. Il y a quelques voilà, répliques avec... je ne me souviens pas s'ils sont trois ou quatre sur le plateau, mais en tout cas, c'est un monologue. Et je me suis dit, mais quelle performance ! En plus, on sait son âge. Et je me dis, mais quelle énergie ! Quelle performance. Et voilà, je me dis que c'est une leçon pour nous et j'aimerais aussi chanter le plus longtemps possible.
Alors, puisqu'on parle de jeu, on vous a demandé d'apporter un son qui vous a marqué. Et voici ce que vous avez choisi.
Tiens, vous avez sorti le vitriol ?
Pourquoi vous dites ça ?
Il a pourtant l'air honnête.
Si vous êtes franchement malhonnête, au premier abord, comme ça, il a l'air assez curieux.
Il date du Mexicain, du temps des grandes heures. Seulement, on a dû arrêter la fabrication. Il y a des clients qui devenaient aveugles. Alors, ça faisait des histoires.
Allez. Il faut reconnaître. C'est du brutal.
C'est du brutal. Karine Day, identification de ce son.
Il y a de la pomme. c'est les tontons flingueurs. Et effectivement, j'adore ce film et les répliques cultes. Et j'adore cette scène là dans la cuisine. C'est vraiment. C'est un film que je regarde toujours avec autant de plaisir, quoi.
C'est cette génération-là que vous regardez beaucoup au cinéma. J'ai lu dans des entretiens que vous citiez beaucoup Louis de Funès, véritablement toute une histoire du comique français, en fait.
Oui, et puis pareil, j'aurais envie de citer aussi Jacqueline Maillan, moi, que j'ai beaucoup, beaucoup admirée. De Funès, forcément, parce qu'en plus, ça passait énormément à la télé quand on était petit. Alors moi, j'étais complètement fan. Et les textes d'Audiard, enfin, moi, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça encore d'actualité, justement, avec ces grands acteurs. Et cette scène, voilà, dans la cuisine où ils boivent cette eau de vie, moi, je trouve ça cultissime. Et d'ailleurs, peut-être que des amis chanteurs se reconnaîtront. j'ai fait une soirée Audiard Tapas à Barcelone en décembre dernier et ils connaissaient tous les répliques du film. Donc vous voyez, dans le lyrique, il y a aussi du Audiard.
Lucille.
Une dernière question. Le critique musical Christian Merlin au Figaro avait remarqué il y a quelques années que vous évoluiez doucement vers une voix de soprano. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Alors là, c'est toujours délicat. Je ne veux pas forcément donner tort à monsieur Christian Merlin, mais dans mezzo-soprano, j'ai toujours dit qu'il y avait soprano, donc ça, c'est une évidence. Est-ce qu'elle évolue vers le soprano ? Pour l'instant, j'ai toujours fait des rôles dits mezzo-soprano, mais effectivement, en respectant justement l'aigu de ma voix. Et après, il est possible que je puisse faire des rôles intermédiaires où il y aura juste l'étiquette soprano. Mais moi, personnellement, je ne la sens pas évoluer vers le soprano. Après, effectivement, tant que je conserve mes trois octaves et que je suis aussi à l'aise dans l'aigu que dans le grave, je fais en tout cas les rôles qui me correspondent au moment venu, quoi.
Je sais que souvent, vous avez refusé des rôles que vous considériez comme trop lourds. Est-ce qu'il y a encore des rôles que vous devez refuser, Karine Day ?
Oui, parce qu'à chaque fois, c'est vrai que les gens nous proposent des rôles. Et en plus, c'est difficile parce qu'il faut se projeter 3, 4, 5 ans voilà, en avant. On ne sait pas comment la voix va évoluer. Et effectivement, si c'est trop large, on peut s'abîmer la voix. Si c'est trop aigu également, si c'est trop grave. Donc dans ces cas-là, on est toujours conseillé, Dieu merci, par son agent, par son professeur, par les gens voilà, du métier.
Vous êtes toujours en contact avec votre professeur Mireille Alcantara ?
Toujours. Ouais.
Vous avez travaillé Rosine avec elle aussi ?
Exactement. Dès que je reprends un rôle, je retravaille le rôle. Et puis toutes mes prises de rôle, je les travaille également avec elle. Ça fait 22 ans maintenant. Donc,
Et pour cette Rosina, qu'est-ce qu'elle a travaillé avec vous plus particulièrement ?
Mais en fait... À chaque fois, on se rend compte que quand on est en scène, on peut quelquefois déplacer des petites choses. Alors après, c'est des micros, ouais. Défauts que l'on peut attraper.
Par exemple,
si dans une scène, on est trop dans le jeu, on peut oublier l'aspect technique et on peut déplacer, fermer un son, l'ouvrir et sur le coup, ça ne va pas s'entendre. Et puis peut-être dans un an, dans deux ans, ça va s'entendre. Voilà. Donc c'est ce genre de choses d'ajustement que l'on fait, en tout cas pour les reprises. Et après, évidemment, les prises de rôle, là, on travaille vraiment encore plus à fond le rôle, quoi.
Le rendez-vous, la chronique.
Karine et Frédéric Bélier-Garcia, on vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite, c'est la chronique cinéma de Jean-Marc, comme chaque... Jean-Marc Lalanne, comme chaque mercredi.
Vous pouvez m'appeler Jean-Marc.
Ouais, non, Jean-Marc Lalanne, j'aime bien votre nom, il me rappelle un grand plasticien. Pas un grand chanteur.
Un cinéaste dont le nom est aussi un prénom, Guy Gilles. C'est un cinéaste très très peu connu, mais qui j'espère va le devenir davantage parce que là il y a une rétrospective à la Cinémathèque française. Il y a aussi un livre qui sort sur son cinéma chez Yellow Now. Et pour moi, je connaissais un petit peu son cinéma, mais là j'ai revu toute son œuvre qui tient à 8 longs métrages. Et c'est vraiment un très grand cinéaste.
Oui. Il a planqué. Par exemple, vous à l'opéra, vous planquez vos bouteilles d'eau. Non, Jean-Marc, lui en temps réel, il les prend et il les boit pendant sa chronique. Voilà. Il pense que ça va lui donner plus de droits d'auteur à la SCAM parce qu'il tient plus longtemps. C'est pour ça. On continue. Non,
c'est vraiment un cinéaste énorme. Pour le situer dans l'histoire du cinéma, je dirais qu'il fait partie de cette génération des cinéastes qui sont un peu les petits frères de la nouvelle vague. C'est-à-dire qu'il a une dizaine d'années de moins que Truffaut, Godard. Il est contemporain plutôt de Téchiné, Garel, Eustache. Mais il a commencé à faire du cinéma très très tôt, il était extrêmement précoce. Il est né en Algérie française, à Oran en 1938. Et dès les années 50, en Algérie, donc il va commencer à faire des films, des courts-métrages. Et lorsque la nouvelle vague explose au début des années 60, à 20 ans à peu près, il décide de monter à Paris. Et là, immédiatement, il est accueilli par Varda, Demy, Truffaut. Il va être assistant de Demy. Et très très vite, il va aussi faire de la télé, il va être réalisateur sur Dim Dam Dom, qui va être très important dans son cinéma parce qu'il va y apprendre une forme de lyrisme pop qui va faire vraiment la marque de ses films. Et à 27 ans, donc très jeune, il sort son premier film, L'amour à la mer, qui est déjà un très très beau film et surtout où tout son cinéma est déjà là. En un film, il a déjà trouvé l'essence même de ce qu'il cherchait.
C'est-à-dire ?
Alors son cinéma, c'est quoi ? C'est d'abord la récurrence de certains motifs, de certains thèmes. Il y en a un qui est très important, qui est la séparation. On reconnaît son admiration pour Jacques Demy. Ces films, c'est toujours un petit peu les parapluies de Cherbourg. Alors parfois, c'est un couple qui se sépare, comme dans ses deux premiers films, L'amour à la mer ou Au pain coupé. Ça peut être aussi la séparation de son pays, puisque ayant quitté l'Algérie, l'exil est très très important dans son cinéma, l'arrachement à ce qui faisait son univers d'enfance. Et un autre thème extrêmement important, c'est, on pourrait appeler ça, disons, le refus absolu de rentrer dans la société. Les héros de Guy Gilles sont des jeunes hommes qui refusent de travailler, qui refusent toute forme de normativité sociale. Et son plus beau film, ce qui s'appelle Absence répétée, c'est l'histoire d'un jeune homme qui quitte son travail, qui s'enferme dans sa chambre, qui se défonce à l'héroïne et qui peu à peu fait ses adieux à la vie. Donc c'est un univers extrêmement sombre, c'est pas du tout les tontons flingueurs. Et en même temps, alors que cette vision du monde elle est extrêmement noire et radicale, c'est porté par une fièvre, par une fougue de cinéma, une forme de lyrisme qui contrebalance absolument la noirceur de sa vision du monde. C'est-à-dire qu'il y a une telle joie à faire du cinéma, une telle joie à filmer des acteurs, parce que quelque chose qui est très beau chez lui, c'est qu'au centre de ses films, il y a des inconnus, mais tout autour, il y a des stars. C'est-à-dire qu'il était très, très séducteur, et donc il y a Alain Delon, Romy Schneider, Jean-Pierre Léaud, Delphine Seyrig, Jeanne Moreau, qui viennent parfois le temps d'une scène peupler ses films. Et on sent vraiment que c'est quelqu'un qui est fou du cinéma. Et dans ce lyrisme, dans cette manière de faire des plans très très courts, très visuels, très graphiques, ce sens de la syncope, je dirais, il y a quelque chose qui est assez peu contemporain du cinéma de son époque, mais qui annonce par contre des cinéastes qui lui sont très très postérieurs, comme Léos Carax ou encore Christophe Honoré, parce que ces films font sur le thème de l'absence, de la séparation, cette espèce de sentimentalité très très pop. Ça fait beaucoup penser aux films des années 2000 de Christophe Honoré, comme Dans Paris ou Les Chansons d'Amour. Donc j'espère que vraiment on va revoir les films de Guy Gilles, parce que ce qui est frappant, c'est que c'est un cinéaste, alors même qu'il a disparu il y a 20 ans, qui est de plus en plus contemporain.
Alors Jean-Marc Lalanne, vous tenez votre pari, celui de dire Jacques Demy ou Catherine Deneuve absolument chaque fois qu'il y a une chronique.
Je crois que j'ai pas dit Catherine Deneuve.
Non, vous ne l'avez pas dit, mais vous avez dit Jacques Demy, donc c'est à peu près la même chose. Et c'est un point commun que vous avez avec Karine Deneuve, on l'écoute.
Avec toi, ma
Lucille ?
C'est la chanson des adieux dans les parapluies de Cherbourg de Demi, donc musique de Michel Legrand. Qu'est-ce que ce répertoire que vous avez un petit peu fréquenté aussi vous permet de faire d'un point de vue vocal que vous ne pouvez pas faire dans vos autres répertoires ?
Effectivement, on essaie de s'approcher plus d'une voix de variété, donc on essaie de ne pas faire le vibrato, voilà, lyrique, quelque chose de plus lisse, et de s'inspirer voilà, de ce qu'on a pu entendre dans les films de comédie musicale. Mais très souvent, les chanteurs de comédie musicale ont pris des cours de chant classique, hein, de toute façon, pour poser la voix. Donc, voilà.
Mais l'inverse n'est pas vrai, contrairement aux anglo-saxons qui ont à la fois une culture de comédie musicale.
Exactement.
Et pas en France.
Non, pas en France, pas du tout. Et en plus, on n'a pas du tout la même éducation dans les écoles à faire justement le mélange de théâtre, danse et chant. Et c'est intéressant d'entendre ça ce soir parce que j'ai eu la chance d'aller écouter les Parapluies de Cherbourg au Châtelet. Et c'était très émouvant de voir ce spectacle et vraiment j'ai adoré. Quoi.
Je suis au courant. Elle m'a raconté. Vous êtes resté debout toute la nuit.
Oui, c'est exact.
Et elle t'a tout dit cette nuit à propos de nous deux. Elle te l'a dit, oui ou non ?
Non, elle ne me l'a pas dit. Elle ne m'a rien dit à propos de vous deux cette nuit. Elle m'a tout dit à propos de vous deux il y a 4 ans. Donc, elle n'a pas eu besoin de me le redire cette nuit parce que je le savais déjà et elle savait que je savais parce qu'elle me l'a dit elle-même il y a 4 ans.
Plateau Méprise avec vous, Frédéric Bellé-Garcia. Oui. Vous êtes le directeur du Nouveau Théâtre d'Angers depuis 2007. Vous êtes metteur en scène. On vient d'ouvrir le plateau avec un extrait de Trahison d'Harold Pinter, la pièce que vous montez actuellement au Théâtre du Vieux Colombier Comédie Française à Paris. Oui. Soit le trio, la femme, le mari, l'amant, un trio du théâtre bourgeois que Pinter déconstruit en 9 tableaux. La pièce remonte à rebours l'histoire de cet adultère, c'est-à-dire que la pièce s'ouvre sur les retrouvailles des amants 2 ans après leur séparation. Et puis à partir de là, on remonte le temps jusqu'à la rencontre, en passant par les aveux, les mensonges, les secrets, les trahisons entre les 3 personnages, sans que jamais l'un ou l'autre n'apparaisse comme la victime, le bourreau, le traître ou le trahi. Qu'est-ce que cet auteur que vous travaillez pour la première fois, qui a été emmené en France par Delphine Seyrig et par Jean-Pierre Marielle, qui sont allés le chercher à Londres, qu'est-ce que cet auteur peut représenter pour vous, alors même que dans votre parcours, c'est la première fois que vous y attelez, Frédéric Garcia.
Oui, ce que Trahison d'abord a de curieux par rapport à Pinter, c'est un peu comme au patinage artistique, la figure imposée. Quoi. C'est une pièce un peu atypique dans son œuvre. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça me plaisait d'y entrer par cette voie. Comme vous dites, il a pris il doit traiter de l'amour, il a pris le trio classique et pour en jouer, pour raconter l'amour différemment avec ce trio. Là. Et c'est vrai que on en parlait beaucoup, notamment avec Denis
Podalydès,
oui, qui le jouait aussi pour la première fois. C'est une œuvre dans laquelle on entre et qui a une sorte de, dans les répétitions, d'effet magique. C'est une langue très pauvre. On lisait l'anglais, on croyait être bilingue miraculeusement.
Ça, c'est génial. Hein.
Ça, c'est génial. Ouais. Oui. Et plus on le travaille, au début, ça paraît du sable. Quoi. Le texte est lui-même du sable. Et progressivement, en respectant même d'une manière un peu scolaire au début, à un moment dans la répétition, les silences, il y a toute une grammaire du silence, le temps, puis le silence. Tout à coup l'œuvre grandit et il y a une sorte de nappe phréatique qui raconte l'humanité, ses sentiments, différemment que les autres auteurs. Et ça a été un plaisir vraiment parce que c'est du Pinter. Il y a l'haleine, je dirais, le souffle ou l'haleine, on pourrait dire, un peu curieuse de Pinter dedans, tout en étant contraint par ce théâtre de l'adultère.
Manu Farine.
Non, justement, sur scène, donc Jimmy, interprété par Laurent Stocker, agent littéraire, amant d'Emma, Léonie Simaga, elle-même femme de Robert, interprétée par Denis Podalydès.
Moi, j'ai déjà perdu. C'est...
Éditeur et poète, et lui-même meilleur ami de Jimmy, comme ça, la boucle est bouclée. Qu'est-ce que cette stratégie narrative à rebours, donc comme le disait Laurent, c'est-à-dire le fait de remonter comme ça toute l'histoire jusqu'à sa source, permet de faire dire au sujet, à savoir à l'adultère à proprement parler?
Un adultère, en tout cas, l'amour, je pense que ce que ça raconte en allant évidemment à rebours de l'histoire, quand on raconte une histoire d'amour du début à la fin, c'est-à-dire vraiment une rencontre, un embrasement, une déception, parfois une trahison et puis une séparation, ça semble toujours l'amour semble l'histoire d'une fatalité, d'un fatum, comme ça, un peu, dans lequel les gens entrent et sortent. Et là, comme le suspense a lieu, d'une certaine manière, a lieu sur. quelle est l'origine de ce trio un peu comme ça bigarré, voilà. On remonte progressivement et l'amour, comme on arrive, et on arrive à cette scène originelle, un peu enfin un peu très très étrange. L'amour semble plus l'histoire d'un malentendu que d'une nécessité ou d'une fatalité. Et on voit que le toujours en répétant et en travaillant, je disais, c'est comme si les personnages avançaient vers la, essayaient de regarder vers le fond du lac, avançaient vers la source de leur histoire, et ce fond du lac devenait de plus en plus sablonneux et boueux, et pour révéler qu'au fond de l'amour, les sentiments qu'on croit premiers et les plus nets sont en fait très très opaques.
Alors justement, qu'est-ce que ce schéma à rebours, qu'est-ce que ça impliquait en termes de direction d'acteur, sachant que, comme vous le dites, plus la pièce avance, plus elle se réchauffe.
Oui, bah c'est très étrange, notamment pour les acteurs, parce que généralement, oui, on monte en puissance au cours d'une pièce ou d'un opéra, on monte, on démarre, et puis après les sentiments s'accumulent et on finit en beauté en finale, voilà, comme chez Rossini. Mais là, il fallait au contraire partir de la tristesse la plus dure, enfin pour remonter vers la lumière d'une certaine manière. Et pour les acteurs, c'était un exercice, mais Pinter, malin, je crois, met des fils rouges. Par exemple, il y a l'alcool. En fait, on recule vers le... Il boit beaucoup dans la pièce. On recule vers...
Le premier verre.
On recule vers la lumière. Donc, mais à la fois, la pièce, oui, l'alcool et l'effusion et la passion réchauffent la pièce. Donc, en fin de compte, c'était un exercice dans lequel qui était nouveau pour tout, moi et les trois autres acteurs, mais qui, dans lequel on voit le génie d'un écrivain, parce qu'il faut se confier à lui, en fait, et il vous amène à destination.
Karine, est-ce que vous rêvez de théâtre, comme Nathalie Dessay, par exemple ?
Est-ce que je rêve de théâtre ? Alors moi, je ne me sentirais pas capable, je vais l'avouer. À chaque fois que je vais voir une pièce, moi, je suis complètement subjuguée. Moi, à chaque fois, je me dis que je me cache derrière la musique, en fait. On a forcément un texte et un rôle à jouer, mais comme la musique est écrite, on se laisse vraiment guider par la musique. Après, le jeu théâtral pur, moi, je serais un petit peu effrayée. Après, j'en rêve, hein, comme tout le monde, ce serait extraordinaire. Hein. Mais en tout cas, non, pour l'instant, je me contente d'aller au théâtre et au cinéma.
Frédéric Bellier-Garcia, on vous a demandé, comme à tous nos invités, d'apporter un son. Et vous avez choisi ça. Enfin, on a un peu triché.
T'es chiant. T'étais nul avec moi. Je m'emmerdais avec toi. T'es nul avec les filles, de toute façon. Un livre de Jean-Luc Marion.
J'étais sûre que ça te ferait plaisir, non ? Je sais pas, celui-là, j'ai dû l'offrir 5 fois.
Eh bien, je suis contente d'être la 6e.
Le pardon porte exactement sur ceci. Peut-on, du côté de celui qui était offensé, éliminer la haine et le sentiment d'injustice, et du côté de celui qui a offensé, la culpabilité ?
Tu aurais pu m'offrir des bijoux quand même. Et tu m'offres un livre de l'autre emmerdeur, là, Jean-Paul...
Jean-Luc,
je sais pas quoi.
Attends, non, tu m'avais dit que t'adorais Jean-Luc Marion.
Non mais, je plains la malheureuse. Hein. Et encore, hein, s'il y en a une assez conne pour se taper l'emmerdeur en chef. Hein.
Ce montage est une idée de Manou Farine. Manou, expliquez.
Alors c'est la voix donc du philosophe Jean-Luc Marion, encadrée par un extrait du film d'Arnaud Desplechin, Comment je me suis disputé ma vie sexuelle. Vous aviez demandé la voix de Jean-Luc Marion. Pour quelle raison?
Oui, donc c'est drôle parce que c'est Emmanuel De Vos, dont on entend la voix,
et Mathieu
ma première actrice.
Oui, on va y revenir.
On a bien vu qu'il y avait tout un lien.
D'accord. Ah oui. Donc j'ai demandé ça parce que c'est vrai que c'est loin d'être Tonton Flingueur, mais non parce que dans une vie antérieure j'étais étudiant puis enseignant en philosophie et mon maître était Jean-Luc Marion, et c'est vrai que c'était, et je sais pas pourquoi, pendant les répétitions de Trahison et de Tchekhov, je me suis dit pourquoi je fais ce théâtre qui démarre dans une pauvreté du texte pour arriver à quelque chose, alors que venant de là, et que c'était quelqu'un qui m'inspirait, oui, qui a un maître,
mais à quel titre, par exemple,
un maître, non, il avait un, pour beaucoup, une sorte de sa pensée, arriver à architecturer un texte, à comprendre un texte, commenter un texte avec une telle clarté qu'on était ébloui par la force, le scalpel de la pensée. Et c'est vrai, et moi, à la fois ébloui qui nous faisait qu'on le suivait, et à la fois on voyait à ce à quoi on ne pouvait pas arriver, donc certains ont pris d'autres chemins comme moi.
Mais justement, pourquoi être passé du côté du théâtre ? C'est-à-dire que la philosophie ne pouvait pas grand-chose pour vous, que le théâtre pouvait ?
Non, bah, il y a eu un vrai amour de la philosophie pendant longtemps. Après, ça, la philosophie a beaucoup de qualités, beaucoup de forces, mais elle a une sorte de sécheresse. Le face-à-face avec le concept est quelque chose d'assez aride. J'avais besoin de passer par des acteurs, des chanteurs, des corps, des images pour essayer de raconter quelque chose.
Et nous ?
Alors, acteur, justement, Frédéric Bellier-Garcia, vous reprenez pour l'ouverture de la saison au Théâtre de la Mandy la Mouette de Tchekhov, avec Sophie Pérez et Xavier Boussiron à la scénographie, et votre mère, Nicole Garcia, dans le rôle d'Arcadina, c'est-à-dire la mère actrice célèbre qui vient assister à une représentation de son fils, Constantin, metteur en scène. J'imagine que vous avez pensé à ce jeu de mise en abîme.
Oui, j'ai pensé. Tchekhov disait qu'il fallait monter la mouette avec sa chair affective. C'est pour ça que lui, il prenait des maîtresses ou il s'inspirait de ses maîtresses pour les rôles féminins. J'ai choisi l'autre axe, la mère terrible et fatale. J'ai choisi ma mère, voilà, je sais ce dont elle est capable.
Vous venez de dire, elle est terrible.
voilà, je sais. Quand on connaît intimement quelqu'un, on connaît son arpège, sa gamme, on connaît ses notes très dures qui vont jusqu'aux notes émouvantes. Donc ça, j'ai eu un plaisir à travailler ce duo assez cruel avec elle.
À propos d'actrice, justement, tout à l'heure, on entendait Emmanuel Devos, et vous l'aviez signalé, c'était votre première mise en scène en 99, et c'était votre première actrice. Ouais. Pourquoi avoir choisi Emmanuel Devos à cette époque-là ? Qu'est-ce que vous étiez allé chercher chez elle ?
Chez elle, c'était l'histoire d'un homme qui pouvait refaire sa vie, qui voulait absolument éviter de tomber, de rencontrer la femme qu'il a rencontrée, qui avait causé son malheur. Et Emmanuel Devos, elle a une sorte de présence comme ça qui est envoûtante et vénéneuse, pouvant être vénéneuse, qui allait très bien avec ce rôle. Voilà. Et qu'on retrouve d'ailleurs même dans sa voix, là, que j'entends, une sorte de nonchalance un peu captivante.
Et nous ?
Quel type de metteur en scène avez-vous été d'emblée, Frédéric Bellier-Garcia ? Est-ce que vous êtes plutôt de ceux à travailler sur le plateau avec les comédiens ou plutôt en salle, hein, ou un peu des deux ?
Je suis toujours sur le plateau. Ça, je suis toujours.
C'est vrai.
Je peux le dire. Je monte. J'arrive pas à m'installer. Étrangement, sans être passé par la case cours de théâtre ou acteur. J'ai jamais été acteur ni rien. Je viens des livres, mais sur le plateau, oui, j'aime bien être là. Même parfois montrer des gestes, des petits gestes. Je fais partie des montreurs, je dirais.
C'est vrai, Karine Ney ?
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que la dernière phase, il ira forcément dans la salle pour voir si tout s'accorde avec les costumes. Mais quand on travaille au départ, il est avec nous sur le plateau.
Vous aimez ce rapport, justement ?
Ah oui, moi j'aime beaucoup.
Laurent Pelly, par exemple, il travaille de la même façon ?
Mais Robert Carsen, pareil, Olivier Py, Damiano Micheletto, tous ces gens sont avec nous sur le plateau et veulent d'ailleurs très souvent nous montrer exactement.
Dernière question, Frédéric Bellier-Garcia. Je sais que vous avez été scénariste pour votre mère, terrible, oui. Nicole Garcia. Selon Charlie, c'est vous, l'adversaire et un balcon sur la mer. Est-ce que la réalisation, ça vous a tenté ?
Oui, bien
et
sûr.
Alors,
Après, le théâtre a une autre temporalité, le théâtre et l'opéra. Donc, il y a toujours une urgence, l'urgence de la première qui arrive. Donc, j'ai pris les droits de certains livres pour être obligé de les monter et toujours différer la chose. Mais c'est un projet urgent.
Les droits de quel livre, par exemple ?
J'ai pris, par exemple, les droits d'un livre de Christian Auster qui s'appelle « Dans la cathédrale », un roman que j'adorerais adapter, avec lequel j'ai travaillé. Mais bon, la chose, pour l'instant, a été différée de mois en mois et d'année en année. Mais j'y compte. Merci de me rappeler à mes obligations. Quand on raconte une histoire d'amour du début à la fin, c'est-à-dire vraiment une rencontre.
Ouvrons les portes.
Un embrasement.
Pourquoi pas ?
Une déception.
Il y a de la pomme.
Parfois une trahison et puis une séparation.
Merci Rossini.
Merci à nos invités. Karine Dey, le barbier de Séville de Rossini. Bien, c'était à l'Opéra Bastille à Paris jusqu'au 3 novembre. Frédéric Bellier-Garcia, Trahison. Darol Pinter, c'est à la Comédie Française Théâtre du Vieux Colombier jusqu'au 26 octobre. Puis au Nouveau Théâtre d'Angers les 30 et 31 octobre. Et La Mouette d'Anton Tchekhov, ça commence vendredi prochain jusqu'au 12 octobre aux Amandiers à Nanterre.
Merci
ça,
beaucoup.
C'était pour aujourd'hui. Mais demain ?
Kaito.
Demain, Sayonara, cinéma japonais et art contemporain avec Naomi Kawase et Tania Moreau. Des annonces, Hippolyte ?
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Como, Manu Farine, Adrien Azeli et Hippolyte Babilote. Journal de la culture, Zoé Spes, chronique du cinéma, Jean-Marc Lalanne, à la technique, Jacques Azubert, à la réalisation, Thomas Beau. Vous pouvez réécouter, podcaster et commenter l'émission sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag RDV.
Très triste, très triste, j'avais envie de me flinguer. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Béli-Garcia ?
Je n'ai pas suivi.
Encore mieux. Il est 19h53, vous écoutez France Culture, c'est bien. Mais c'est un style et nous le cultiverons jusqu'à la fin, hein, Hippolyte ? Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès, justement, de la Comédie Française.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec Entrée Libre, ce soir à 20h15 sur France 5.